on a repris tous les éléments qui nous avaient été donnés pendant les moments de débriefing des ateliers avec les rapporteurs. Une masse, grosse masse, et puis petit à petit essayer de faire un tri dans tout ça. En gros, ce qui a évolué, peut-être vous n'allez pas voir d'énormes différences. Entendez que quand même ces petites différences ont demandé tout ce travail. On a essayé de vulgariser. Un des trucs qu'on nous a dit hier, souvent même, c'est ouf, où est-ce que vous allez quoi? Et si on essayait que ce soit compréhensible par un enfant de 7 ans, ça dirait quoi? On a essayé de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé, mais on a essayé. Il y a eu quelques ajouts, des suggestions qui nous ont été données ou qui sont venues de par les différentes choses qu'on a vues et entendues hier. Mais il n'y a pas eu un nouveau critère qui s'est ajouté. On en garde 6. Il n'y a pas eu non plus de critères qui sont partis. À aucun moment, on nous a dit hier, ça vraiment à poubelle, quoi. Il y a eu par contre des critères qui ont posé de vraies questions, et qui, notamment cette question-là, on garde ou on ne garde pas ça? Et des débats. Et ces débats, ils ont re-eu lieu pendant cette nuit. À un moment donné, il faut trancher. Mais on tranche pour maintenant, et puis on verra si on fait d'autres choix plus tard. Ça continue. On a enlevé quelques redondances. En tout cas, peut-être ça viendra plus tard. En tout cas, donc c'est vraiment une évolution plutôt que de grande révolution. On a essayé vraiment de ciseler les choses. Et donc ça veut dire se mettre d'accord sur le moindre mot. Oui, mais quand on dit ça, est-ce que c'est pas mieux plutôt de dire ça comme ci ou comme ça? Est-ce que ça ne laisse pas sous-entendre que, est-ce que ça ne peut pas être interprété d'une autre manière? Et donc voilà, de belles prises de tête, assez joyeuses. Je dois quand même dire ça parce que c'est comme si c'était un grand sacerdoce. Ça restait joyeux, mais quand même. Et alors, Vincent remerciait les traductrices parce qu'il y a eu aussi ça. Évidemment, une fois qu'on est plus ou moins d'accord sur un bazar, bah, il faut tout vous traduire. Et ça, c'est le travail qui se passe après. Donc, on remercie vraiment de nouveau les traductrices d'avoir accepté d'être de nouveau resollicitées à 11 h du soir pour pouvoir remettre leurs pattes dessus avant de remettre ça sous forme d'un PowerPoint pour que vous puissiez le lire maintenant. Bref, on est parti de critères. 6 critères, on vous propose d'arriver à ce stade-ci avec 6 clés. Ça a été une discussion qu'il y a eu aussi hier avec les rapporteurs. Critères d'évaluation. Tiens, je regarde mon animation pour voir de quelle manière est-ce qu'elle intègre ou pas la complexité dans ma pratique d'éducation relative à l'environnement, d'éducation au développement durable, etc. Et puis, oui, non, je réponds à chaque question, oui, non, et hop, est-ce que j'intègre la complexité ou pas? Ça me permet de voir ça, les critères. Des clés, c'est pour ouvrir souvent des boîtes, parfois des portes. On préfère cette vision-là. Vous voyez qu'il y a des serrures ici sur les écrans. Alors, entre critères et clés, si je devais donner une image, peut-être que si c'était des critères, on aurait une porte avec un certain nombre de serrures ou de cadenas. Et pour pouvoir se dire, oui, je l'intègre la complexité dans mes pratiques, ben, j'ai besoin de chaque clé. Et donc, j'ai une porte avec 6 cadenas, et s'il me manque une clé, je passe pas. Si j'ai les 5 clés et qu'il m'en manque une, la porte restera fermée. Si c'est des clés, peut-être qu'on n'a pas une porte, mais 6, avec chacun sa serrure. Et qu'on peut choisir d'ouvrir cette porte-ci ou cette porte-là, d'ouvrir 2 portes, 3 portes, 4 portes, 6 portes. On peut choisir d'inventer de nouvelles portes. Et quand on passe par une porte, parfois, il y a un passage secret qui nous fait arriver dans la pièce qui nous serait arrivée par l'autre porte qu'on n'a pas ouverte. Ça nous semble plus accueillant. Du coup, on n'est plus obligé d'ouvrir toutes les portes. C'est juste une invitation, une envie de parfois se dire « Ah tiens, il y a quoi derrière cette porte ?» Cette porte, elle m'est étrangère, elle me fait un peu peur, mais je pourrais quand même essayer une fois, peut-être même juste de l'entrouvrir, de regarder comme ça, par la serrure, et puis à un moment donné, de l'ouvrir pour du vrai, et d'y aller. Ou pas. Ça restera le choix de chacun. Et puis ça peut évoluer dans le temps aussi. J'y vais ? François s'est endormi, il s'est demandé si à un moment donné j'allais commencer. Donc ici, ça a changé en clé, mais dans les versions traduites, désolé, parce que vous voyez que ça, c'est resté critère, mais je ne vais pas vous refaire tout le truc. Hein. Ce ne sont plus les critères. Vous avez compris, je crois. François, tu es avec moi ? Tu veux bien mettre la première, le première clé ? Le projet met-il les participants en chemin vers l'action ? On a gardé des questions, vous voyez. Ça a été aussi un débat. Est-ce qu'on garde des points d'interrogation ou pas ? On a choisi pour l'instant de garder des points d'interrogation, de garder toutes les phrases sous la forme interrogative, pour vraiment pouvoir se poser des questions. C'est ça le but du bazar aussi, se poser des questions. Est-ce qu'on met les participants en chemin vers l'action ? La version précédente, elle ne parlait pas de chemin. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'action, ça n'est pas forcément de l'action ici et maintenant dans ce qu'on propose. On pourrait imaginer que ce qu'on met en place, c'est de mettre les populations qu'on rencontre sur ce chemin. Et puis on verra. Est-ce que c'est demain ? Est-ce que c'est après-demain ? Est-ce que c'est dans 10 ans ? On n'est pas maître de tout. Et en tout cas, on peut tout à fait bien imaginer que les actions qu'on met, les projets d'animation qu'on met en place n'intègrent pas forcément de l'action ici, maintenant, tous ensemble, avec nous, etc. Mais on les met en chemin. Et pour se mettre en chemin, il nous semblait intéressant que la vision positive soit articulée avec une vision plus alarmiste. De fait, une vision alarmiste, voilà, elle est bien là. Il y a des chiffres qu'on nous a rappelés encore avant-hier, et il ne faut pas complètement se voiler la face. Mais c'est peut-être intéressant aussi de garder une vision positive pour ne pas complètement se scléroser dans le « il n'y a plus rien à faire ». On propose des actions à court, moyen et long terme. On valorise l'ancrage local. Dans l'idée que peut-être qu'on peut aussi penser l'action à une toute petite échelle, l'échelle locale. Et que même si, évidemment, en agissant tout petitement, ben, on pense à toute la globalité d'un système, on pense à l'autre bout de la planète, on pense à dans 100 ans. Et ici, maintenant, c'est quoi que je fais comme toute petite chose ? Et alors, on articule les changements individuels et les changements de société. Voilà, il y a des points qui ne sont pas traduits en allemand. Mais ma voix suffit, évidemment. Vous voyez que ça continue. Hein. Est-ce qu'on s'appuie sur la dimension collective du groupe ? On voudrait favoriser le sentiment d'appartenance et on confronte les différents vécus et les représentations des participants. Toujours dans l'idée de se dire qu'on a chacun nos cartes mentales et qu'il faut bien évidemment partir de ça. Non seulement partir de ça, mais aussi que ça puisse se confronter. Que chacun puisse se dire, tiens, mais qu'est-ce que je pense ? Quel est mon schéma de pensée sur tel ou tel sujet ? Mais aussi qu'on puisse échanger et confronter des points de vue. Celui-ci a peu changé sur mettre en lumière les éléments du système. On a enlevé un sous-point qui était la question de la vulgarisation. Ça nous semblait évident au départ de mettre comme condition nécessaire et indispensable que notre discours, nos sujets, soient vulgarisés, qu'ils puissent être compréhensibles par tout un chacun des populations qu'on rencontre. Et puis hier soir, en remettant le métier, on se disait, mais en fait, c'est à ce point évident qu'il faut vulgariser, que est-ce qu'il faut le mettre comme étant une clé? C'est un peu comme si on disait, il faut absolument parler la langue maternelle des gens qu'on rencontre, ou en tout cas être compréhensible. Ben oui. Et ce n'est pas propre à l'intégration de la complexité que de devoir vulgariser. Il y a la question de varier les approches pédagogiques. On a mis l'accent là-dessus aussi. Donc il y avait une phrase un peu alambiquée, comme on est spécialiste. On garde l'idée de varier les approches. Et puis on a intégré des sous-points qui essayent d'expliciter un peu plus ce que ça veut dire que varier les approches. De varier toutes les dimensions d'apprentissage des publics qu'on rencontre. Ces dimensions cognitives, évidemment, ce qu'on va pouvoir apprendre ensemble, et puis tout ce qui passe autre que par l'apprentissage de savoir au sens strict, tout ce qui passe par les sens, les émotions, l'intuition, la créativité, le corps, le fait de bouger son corps, tout ce qui passe autrement que par le discours, par les mots, par l'apprentissage strict, de savoir strict. Et puis aussi, on a rajouté là l'idée de travailler en partenariat. D'être le plus possible, en tout cas à chaque fois que c'est possible, en connexion avec d'autres acteurs qui ont sûrement d'autres pratiques, d'autres points de vue et qui vont aussi pouvoir permettre que les populations qu'on rencontre puissent être touchées par différents canaux, de différents points de vue et que chacun puisse s'y retrouver. Ici, on a essayé de lever une ambiguïté. On parlait de fragilité ici. Et je vais peut-être m'arrêter un tout petit peu sur cette clé-là. Vous vous souviendrez bien qu'on parlait de fragilité ici. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup posé de questions et de débats vraiment riches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fragilité? On y tient. Il nous a semblé que c'était une posture qui était intéressante. Vous ne retrouvez plus le terme de fragilité ici, qui a été remplacé par le terme d'humilité. Ça change beaucoup et peu. On se dit que l'humilité, c'est de toute façon beaucoup plus positif que la fragilité. C'est une qualité d'être humble. Mais il s'agit quand même de montrer qu'on n'est pas tout puissant. Ça nous semble vraiment utile et intéressant, voire même indispensable, cette posture d'humilité, à la fois pour des raisons peut-être purement stratégiques, en termes vraiment pédagogiques, de pouvoir mieux emmener les personnes qu'on rencontre vers quelque chose, et si on veut les emmener avec nous, sûrement pas en étant tout puissant que ça va pouvoir aller, parce que dans l'idée de rester... un être humain parmi tous nos contemporains d'êtres humains, c'est ensemble qu'on va pouvoir y aller. Et donc une posture stratégique. Et puis aussi une posture éthique. Peut-être que les certitudes, finalement, sont à bannir. Évidemment, on a tout un tas de valeurs. Évidemment, on a un message à transmettre. On a envie de faire passer des choses. Sinon, on ne serait pas là, de fait. Évidemment, on croit fort en quelque chose, mais fort. Évidemment, tout ça, on essaye de le mettre en pratique dans notre vie quotidienne et on est habité de ça. Et c'est indispensable d'être habité de ça. Mais il ne faut pas que le fait que nous soyons habités de ces valeurs, de ces messages, de ces préoccupations-là, il ne faut pas que ce fait-là nous fasse oublier que... On sortira tout à l'heure et on verra que le monde ne fonctionne pas de cette manière-là. Et il faut partir du monde qui est tel qu'il est. Et si on ne part pas de ce monde-là, si on ne part pas aussi d'autres manières de voir, on n'arrivera à toucher personne, évidemment. Et si on ne laisse pas la liberté aux personnes qu'on rencontre d'adhérer ou pas, est-ce que finalement on ne fait pas pire que mieux? On n'est pas tout puissant de nouveau. On a des incertitudes. On a ici changé doute par incertitude pour aussi lever une ambiguïté dans l'idée que ça nous semble intéressant à certains moments donnés de laisser apparaître nos incertitudes. Nos incertitudes sur les contenus, sur ce qu'on est en train de dire, sur les messages et sur les résultats. De nouveau, dans la traduction, résultat n'apparaît pas, mais puisqu'il est arrivé encore en chemin, mais aussi l'incertitude sur les résultats. Je m'explique. Tous les messages qu'on prodigue peuvent être validés scientifiquement, peuvent venir de tout un tas d'études, etc. Et on vérifie, on revérifie, on re-revérifie. Il n'empêche que toute démarche scientifique implique une part de doute. S'il n'y a pas de part de doute, ce n'est pas une démarche scientifique. C'est un dogme. Et si nous devenons dogmatiques, nous ne sommes plus dans de l'éducation, plus du tout. On est dans du drill, on est dans. Mais ce n'est plus une démarche éducative. Et donc, il est indispensable, évidemment, éthiquement, de laisser passer ce doute. Toute la science, l'histoire de la science, nous a appris que des certitudes scientifiques ont été invalidées quelques siècles plus tard. Et pourtant, au moment de ces certitudes, c'était des vérités établies qui fonctionnaient à ce moment-là. Et donc, on peut avoir des certitudes aujourd'hui qui fonctionnent tout à fait aujourd'hui et qui nous permettent de regarder le monde d'une certaine manière et qui nous permettent de regarder le monde d'une manière utile. Il n'empêche que quelle sera l'évolution dans 100 ans, personne ne le sait. Donc évidemment pas à nous. On laisse apparaître aussi des incertitudes sur les résultats. On va y arriver ou on ne va pas y arriver? Bah, nous on espère que oui, évidemment. Mais si on ne laisse pas une place pour l'idée que peut-être qu'on ne va pas y arriver, on se met une pression qui n'est pas utile. On y va, on essaye, on met toutes les chances de notre côté pour que ça puisse fonctionner, mais. Par contre, c'est là qu'on enlève l'ambiguïté, j'espère. On ne nous a pas semblé utile, pardon, de laisser apparaître nos incertitudes sur le processus. Il ne nous a pas semblé utile, voire même contre-productif, que nos fragilités sur nos méthodologies, sur ce qu'on met en place, sur ce qu'on demande, nos consignes, les exercices, etc., apparaissent. Au contraire, il nous a semblé que l'animateur, l'animatrice, l'enseignant, etc., devait être garant de ce fameux cadre méthodologique. Et il doit assumer le fait de proposer une consigne, par exemple. Et pas, je propose la consigne, mais je ne suis pas tout à fait sûr, vous faites si vous voulez, vous ne faites pas, tant pis, on peut faire autre chose si vous avez envie. Non, on assume, on propose quelque chose. On propose une méthodologie. Ici, dans ces 3 jours, Vincent, responsable du processus, de la méthodologie, il nous propose des choses à faire pour arriver à ce résultat-là. Vincent, en tant que professionnel, ben, on lui fait suffisamment confiance que pour qu'on puisse se dire, OK, on va le suivre dans le processus et ben, on verra où ça nous mène en termes de résultats. Mais on lui fait confiance. Et pour que cette confiance-là, elle est absolument indispensable. Si on n'a pas confiance dans ce qu'il nous propose, il n'y a rien qui sortira de ces 3 jours. On lui fait confiance et on y va. Et puis on avance sur le résultat. Mais est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Ben, moi, j'espère que oui. J'ai l'impression que oui, mais peut-être pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des doutes sur les processus, hein. On peut bien imaginer, il ne nous le dit pas, mais on peut bien imaginer que dans sa caboche, il y a plein de doutes. Je fais ci, je fais ça, et il va se coucher très tard, le garçon là-bas, hein, aussi, pour à un moment donné trancher. Mais ces doutes, on n'a pas besoin de les voir, nous. Ils sont dans sa tête, et c'est bon comme ça. Et de les voir, peut-être ça va pas nous aider du tout, nous. Donc il ne s'agit pas de montrer ses failles sur le processus. On se permet de se mettre soi-même dans une posture d'apprenant. C'est le deuxième sous-clé. La deuxième sous-clé. De nouveau, se dire qu'on apprend aussi, nous, en tant qu'enseignant, animateur, de la pratique. On apprend presque, je souligne vraiment le presque, au même titre que les apprenants. Ben, ça aussi, amène aussi une dynamique positive. Et puis, on accueille d'autres façons de penser. On a enlevé carte mentale, d'autres façons de penser. Mais c'est bien de ces fameuses cartes mentales dont il s'agit. Le cadre sécurisant, le revoilà. Et donc, comme étant une condition vraiment à réfléchir pour ouvrir cette porte. On reparle de cet inconfort. On peut assumer le fait que ce qu'on propose pourrait générer de l'inconfort. Ça a l'air d'être presque, pour certains d'entre vous, d'entre nous, ça a l'air d'être contradictoire, le fait qu'il y ait un cadre de sécurité et de l'inconfort. On a peut-être parfois tendance à confondre l'inconfort et l'insécurité. Et ici, il nous a semblé intéressant de se dire, pour que ce cadre sécurisant ait lieu, on assume qu'il puisse y avoir de l'inconfort, dans l'idée que c'est normal d'être dans des positions inconfortables à certains moments donnés. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en chemin. Si je suis en train d'escalader une montagne, je vous jure que je serai dans une situation très très inconfortable à essayer de grimper sur une paroi rocheuse. Mais j'ai un guide avec moi qui est un professionnel du truc, qui est là à côté de moi. Il m'a installé le baudrier, il m'a mis une corde et je suis en sécurité. Si je tombe, je serai rattrapé par le matériel, par le guide, etc. Je ressens de l'inconfort, mais je reste dans des conditions de sécurité. Et peut-être que si le guide me dit t'inquiète, tout va bien, tu ressortiras, ton intégrité physique ne sera pas mise à mal. C'est inconfortable, mais on y va. Et si j'entends le guide qui me dit c'est inconfortable, mais on y va, je peux accepter le fait que je sois dans l'inconfort. Je ne dois pas me dire, oh, quand je suis au milieu de la paroi, ouh, ça va pas du tout, j'ai le vertige. Et que cet inconfort-là me bloque, je peux plus avancer. Et qu'est-ce que j'ai? Je suis pas compétent, moi, pour y arriver, j'ai le vertige, nom de Dieu. Je peux pas faire ça, j'ai le vertige. Non, le vertige, c'est normal. Et c'est normal de ressentir cet inconfort-là. Et c'est pas parce que je ressens cet inconfort-là que je ne peux pas continuer à avancer. On a ajouté aussi, donc on a gardé les liens de confiance dont j'ai déjà parlé. Et puis on a ajouté l'idée de laisser la liberté de faire ou de ne pas faire ce qui est proposé. Toujours dans l'idée de garantir un cadre. Si le guide me dit, on y va là, on est au pied de la paroi et on peut y aller. Mais si tu le sens pas, n'y va pas. Mais moi, je t'invite à y aller. J'entends ça du guide. Ok, si je veux reculer, je peux. Et si même au milieu de la paroi, je me dis non, là vraiment, je peux pas, j'ai la liberté de redescendre. Et le guide ne va pas dire non, tu continues. Alors la prochaine fois, je ne monte plus jamais. Par contre, même si je suis redescendu, peut-être que demain, si j'y retourne, accompagné du même guide ou d'un autre, si j'y retourne, eh bien, peut-être que je monterai un tout petit peu plus haut. Et puis la fois d'après, encore plus haut. Peut-être qu'un jour, j'aurai plus le vertige. Cette situation d'inconfort, on la ressent nous aussi, évidemment. Quand tu parlais de fragilité ou d'humilité, c'est inconfortable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. On a rajouté une dernière clé, finalement. Ça nous semblait vraiment important que le projet assure l'assertivité empathique de la subjectivité fragile du paradigme de l'Hollande dans ses dimensions horizontales, verticales et de genre.